la bande originale
oui,
avec les laquais de
vous
dites Morgane, Camille, Paul, Mirabel, Tanguy, Pasturo, Daniel Morin.
Bonjour Morgane.
Et donc notre invité est Karine Tuile.
Ah oui, ah oui.
Qui signe la décision. D'ailleurs, vous êtes bon ou pas vous à prendre des décisions, Leïla? Déjà.
Ah oui, d'accord.
Ça dépend, ça dépend.
Non, c'est, attends, c'est la meilleure réponse. Ouais.
Ça dépend dans quel domaine.
T'es bon ou pas pour une décision, toi?
Non.
Comment te dire? Faut peser le pour et le contre.
Ça dépend dans quel domaine.
Je dirais ça demain.
Morgane?
Je sais pas. Non, je peux être assez tranché, mais sauf au resto, ça peut prendre des heures.
Ah voilà.
Ouais, ouais.
Ah ouais.
D'accord.
Pas on partage.
Non, pas du tout.
T'es pas bon dans les décisions.
Ah, non.
Daniel?
Moi, je prends que les mauvaises.
Ouais, non, mais c'est ça. D'où la question à Karine Tuile. Qu'est-ce que la définition d'une bonne ou d'une mauvaise décision? En plus, quand ça se passe dans un milieu comme la justice ou le terrorisme, voilà, il y a plus d'écho ou de danger. On va en parler avec elle tout à l'heure, dans quelques instants.
Tout n'est qu'affaire de décision.
Exactement.
Leïla.
Morgane.
Leïla.
Morgane.
Morgane.
Justice.
Mais oui. Excusez-moi.
Non mais j'étais pas irriguée. Non
mais. D'habitude c'est moi qui le dis.
Je prends le relais quand il y a une cuve qui marche pas.
J'étais pas irriguée.
Mais
ouais.
Je suis ton
groupe électrogène.
Elle est trop belle celle-là. Qui chante ça?
Daniel,
oui,
il est venu tout à l'heure.
Non.
Jules,
c'est l'esprit.
Ouais.
C'est la ville.
Soprano.
Oui. Oui.
Oh.
J'étais pas irrigué.
Justice.
Comment il va, Soprano?
Bien, il t'embrasse d'ailleurs, il m'a dit. J'ai eu, embrasse Daniel.
Mais j'ai trouvé ça tellement chouette de l'avoir l'autre jour. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça.
Voilà. Qui chante ça? Le thème, c'est la justice, on l'a compris. Hein.
Leïla?
Ouais.
C'est Nirvana. Non.
Daniel?
Pas Nirvana.
Metallica?
Exactement. Yeah. Tout ça autour de la justice, toujours. Qui chante ça?
Morgane,
Leïla,
Chicken Jaffa Cooley.
Non, il a dit Chicken Jaffa Cooley.
Ah si.
Bah si, il a dit Chicken Jaffa Cooley.
Ça aurait été compliqué que ce soit pas lui.
Et tu commences cette.
Oui, Morgane, bien joué.
J'ai très peu de mérite.
C'est Chicken Jaffa Cooley, mais il le dit en ouverture.
Il
dit, écoute.
Chicken Jaffa Cooley.
Ah oui, d'accord.
Qui chante ça?
C'est au George.
Rose? Leïla?
Non.
Ah!
Français?
Non. A brand new gift,
looking for somebody to share it with.
Attention, Morgane va être irriguée.
Non.
Ça monte.
Morgane, Ayo?
Oui!
Oh, oui!
C'est ça. Et ça s'appelle tout simplement Juste. Qui chante ça?
Brasse le vent, brasse le temps, les voiles pleines vont de l'avant. Le combattant s'est peut-être enfoui, croqueur
de lune,
c'est
le trio.
Oui.
Oh là là.
J'ai cru un petit Bertrand Cantat et puis je me suis dit ben non.
Non, ça va pas être possible.
Voilà, voilà. Mais au début.
Ça serait la.
Ah ben oui,
elle est temps que je. Une forme
Oxymore.
Carrément, Oxymore.
Ah, tu condamnes, toi.
Attention.
Oxymore, carrément.
C'est pas moi qui ai condamné. Et c'est pas moi qui ai commencé. Il y a pour l'instant 4 points pour Morgane, 1 pour Leïla, 1 pour Daniel. Tout se joue sur ce dernier titre qui rapporte 5
Les
points.
Les cerveaux s'obscurcissent en silence et ça finit par de l'auto-justice. De
l'auto-justice. Garou?
Assassin? Non.
Non.
L'homme pâle, l'homme
pâle.
Joli. Justice, n'importe qui peut devenir crapuleux pour sa survie.
Écoutez les paroles.
Les problèmes ne s'annulent pas, rien ne sert de comprendre.
Ça chante plus la justice, c'est ça?
Écoute.
Non. On est tous obsédés par la vengeance et les représailles. Merde, ce n'était pas le vœu de mes aïeux. Plus le temps de pleurer saille, les plus nerveux déraillent. Quoi, c'est partout comme ça, il n'y aura pas moins de querelles ailleurs. La raison a foutu le camp, et les plus forts perdent la boule juste en bousculant les faibles sous le tramway. Pourquoi? Hein? Parce que tout le monde aime le goût du sang. Seulement personne n'est assez honnête pour se l'avouer. Hein? Je compte plus les défauts des hommes. En
c'est
manque
chaud.
De sexe, les fils de pute en magazine, trop de testostérone.
Victoire de Leïla. Merci d'accueillir Karine Tuile.
La bande originale.
Pour la décision. Bonjour Karine.
Bonjour, ravi d'être là.
On est très fiers.
Qu'est-ce que vous allez nous chanter?
On est ravis.
Vous allez voir.
Et alors, ce qui est drôle, je ne sais pas si vous avez entendu en début d'émission, j'ai fait un tour de la table en disant qui est bon ou pas pour les décisions. Et les réponses étaient
Oui, c'est la question la plus difficile
c'est
dans une vie.
Incroyable. En tout cas, la force de votre roman est évidemment tellement bien écrit. C'est votre 12e roman, me semble-t-il. C'est qu'il réunit tous les ingrédients de vos précédents romans, tout ce qui fait l'essence même de ce qui vous donne envie d'écrire, que ce soit évidemment la justice, d'où ce blind test, on va évidemment en parler avec vous, la toile de fond de l'antiterrorisme, mais aussi la fatigue, l'érosion d'un couple, mais aussi l'envie de séduire d'une femme qui approche de la cinquantaine d'années, mais aussi ses rapports entre parents et enfants, tous ces ingrédients-là que l'on retrouve dans et la place de la femme, aussi le féminisme, tous ces ingrédients qu'on trouve dans tous vos romans, sont toujours présents, j'ai envie de dire. Vous ne pouvez pas imaginer ne pas parler de toutes ces facettes.
Non, on ne se refait pas. Je crois qu'on écrit avec ses fêlures, avec ses obsessions, avec ses doutes. Et on a beau choisir des sujets différents à chaque livre, les grandes thématiques restent les mêmes.
Alors c'est vrai qu'on pourrait présenter le roman en disant c'est l'histoire d'une femme qui se pose des questions sur son propre couple et qui tombe amoureuse sur son lieu de travail et qui doit aussi bien prendre des décisions dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle sans trop savoir quelle est la bonne décision, la définition de la bonne décision d'ailleurs, est-ce qu'elle est pour soi ou pour les autres, en tant que mère, créer le divorce aux yeux des enfants, continuer d'avoir sa vie sexuelle ou une nouvelle vie sexuelle avec un nouvel amant, et puis dire voilà, c'est cette histoire de cette femme ballottée, transbahutée par les uns et par les autres. On pourrait présenter ça comme ça, on
tout
est d'accord
fait. Une femme en pleine crise existentielle.
Mais une femme agissante quand même, voilà. C'est et pas une femme,
oui,
que
une femme de pouvoir.
On peut présenter aussi un autre roman en disant c'est l'histoire d'une juge antiterroriste qui a une responsabilité nationale, à savoir si elle doit ou non maintenir en garde à vue, en détention, en tout cas quelqu'un qui revient du djihad, en se demandant s'il est ou pas potentiellement un danger pour la France. Et elle tombe amoureuse de l'avocat qui va défendre ce bonhomme-là. Et alors là,
conflit d'intérêts,
et la France est en danger.
Oui, c'est-à-dire, d'abord, au quotidien, elle prend quand même des décisions qui peuvent avoir potentiellement un impact sur la sécurité nationale. Et quand, effectivement, l'amour s'en mêle, c'est très compliqué parce que, mais je crois qu'elle garde à tout moment du texte, hein, son intégrité professionnelle. Je crois pas qu'elle agit sous le coup de la passion. Elle, c'est une femme qui est très juste, qui a des engagements, qui a des convictions, qui chaque jour doit évaluer la dangerosité des gens qu'elle a face à elle, mais qui reste profondément attachée à une éthique de la justice.
Oui, mais être juste, c'est par rapport à une loi, par rapport à une éthique, justement, et on n'a pas tous la même loi ou la même vision de la loi, et même les juges et les avocats disent souvent, il y a deux lectures la loi. J'ai souvent entendu ça dans différentes réunions avec
les
avocats.
Oui, les circonstances.
Et de se dire, quelle est la définition de la justesse, d'abord?
En fait, ils ne sont pas du tout dans les mêmes rôles, c'est-à-dire que pour l'avocat du mise en cause, la justesse et la justice, ce serait de placer cet homme sous contrôle judiciaire pour lui assurer un avenir, parce qu'il est récupérable, parce qu'il croit en son discours. Et pour elle, la justice et la justesse, c'est prendre aussi une décision qui va prendre en compte la question de la sécurité nationale aussi. C'est ça tout l'enjeu d'ailleurs de cette profession, c'est que c'est une profession qui vous expose. choses en tant qu'individu, mais qui expose aussi tout un pays.
Qui l'expose parce qu'elle a des gardes du corps, elle reçoit des menaces sans cesse. On sait qu'elle
tient... Des menaces de mort, oui.
Ouais, c'est des menaces de mort. Elle a un rôle, en effet, qui est stratégique. Et ce qui m'a plu dans ce personnage féminin qui approche de la cinquantaine, c'est aussi qu'elle a une interrogation permanente sur son réel, sur son métier. C'est-à-dire qu'elle est et elle a conscience qu'elle s'inscrit dans une continuité, une époque où on a été marqué par le 11 septembre, qu'il y a eu les attentats de Charlie, qu'il y a eu le Bataclan, et qu'on est dans un rapport un peu tout sécuritaire et qu'on a tendance à vouloir enfermer durablement des gens qui sont allés en Syrie sans trop pouvoir savoir ce qu'ils y ont fait. Et elle oscille de temps en temps dans ses positions, et c'est aussi ça qui me l'a rendu très très proche.
On sait ce qu'ils ont fait en Syrie, on sait pas quelles sont leurs intentions quand ils reviennent et pourquoi ils reviennent.
On sait pas à quel niveau ils ont
œuvré. On sait pas à quel niveau ils ont œuvré aussi en Syrie.
On sait qu'ils sont partis en Syrie, mais certains vont le dire, on est parti faire de l'humanitaire, d'autres on est parti faire la cuisine.
Beaucoup disent que c'était de l'humanitaire.
Voilà, que savoir finalement, et comment ne pas se positionner comme un individu injuste en disant, ben non, vous êtes allé en Syrie, certains disent on a été naïfs, on pensait que c'était le paradis, c'était pas le cas. Alors, on peut pas savoir s'il y a tromperie, duperie dans ce propos, mais c'est justement là toute la difficulté de la tâche de cette Alma Revel, qui est à la tête de ce bureau, enfin, qui est cette juge antiterroriste.
Elle n'est pas seule à décider. Ouais. C'est là aussi où on apprend les arcanes de ce métier, où vous êtes, j'imagine, plongé dans une investigation. Et d'ailleurs, vous remerciez à la fin ceux qui, sous couvert du respect de leur situation, des dossiers et de la déontologie, vous ont expliqué le mode de fonctionnement qui vous a toujours passionné d'ailleurs. Le terrorisme est toujours
Oui, j'avais présent. Déjà dans l'invention de nos vies suivi le parcours d'un homme qui était allé prendre les armes en Afghanistan, et à l'époque, en 2007, j'avais assisté à l'un des premiers procès pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, et c'était un Français qui était allé à Sydney dans le but de commettre un attentat.
Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans?
Eh ben cette histoire du mal, en fait. Qu'est-ce qui pousse un individu qui a grandi en France un jour à commettre un attentat, et souvent contre les intérêts de son propre pays, donc contre les siens, en fait. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a des... Elle le dit, Alma Revel, elle le dit très bien. Elle le dit, j'arrive à m'habituer à la peur de mourir, mais je ne m'habitue jamais à la haine de jeunes qui ont l'âge de mes enfants et qui non seulement me voient comme une ennemie, moi qui incarne la loi, mais qui n'aiment pas la France.
Alors, ce qui est formidable dans votre roman aussi, c'est que vous vous intéressez aux différents témoignages, aux différents angles, que ce soit la maman d'un terroriste et la manière dont elle parle ou dont elle essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Vous vous intéressez aussi au cheminement, à ce qui fait qu'on peut se retrouver dans ce genre de situation. Est-ce que c'est d'avoir été mal éduqué ou d'être frappé dans son enfance ou d'avoir un rapport avec son père assez particulier, conflictuel, et d'être influencé par des grands frères qui viennent vous inculquer une autre façon d'être musulman, parce qu'il faut bien distinguer, et c'est aussi l'intelligence du roman, bien distinguer le musulman de l'extrémiste
pour moi,
du terroriste.
C'était très important justement de montrer dans ce livre aussi la beauté de la foi, le besoin de spiritualité dans nos sociétés,
et la mixité dans l'amour et dans la religion aussi, la mixité.
Et la récupération politique qui peut en être faite, et on le voit bien même dans le parcours de ce jeune homme, c'est-à-dire qu'au début, il a un vide existentiel, il a un besoin de compréhension, il a un besoin de trouver sa place, et puis il va sur Internet et il rencontre des idéologues qui finissent par lui faire un lavage de cerveau.
Et parmi tous les angles...
Je disais qu'il est rencontré aussi parce qu'il était dans une souffrance, parce que ça aussi dans le roman, c'est quand même bien démonté.
Bien,
c'est le mécanisme aussi. Il y a
une souffrance sociale, une souffrance morale, très grande.
Une humiliation.
Et sur Netflix, en ce moment, il y a une série dont c'est le propos, ça s'appelle Khalifa, qui parle justement de l'entourage, du besoin de religion, de spiritualité, et puis de tomber quelquefois sur certains écueils.
C'est un phénomène en fait un peu sectaire, en réalité. Vous êtes vraiment, d'ailleurs ils appellent ça l'embrigadement djihadiste.
Et il y a une facette aussi, celle du père de la victime ou d'un membre de la famille de la victime qui vient vous voir et qui réclame justice et qui se dit, vous vous rendez pas compte de ce que l'on peut vivre ou souffrir lorsque l'on est du côté des victimes, de l'absence d'un être aimé.
Ça, c'est une situation toujours très douloureuse que je décris dans le livre pour cette juge.
Elle
quand elle reçoit la famille d'une famille qui a perdu son enfant dans dans un attentat. Et on voit bien l'incompréhension, l'incapacité même, parce que vous ne pouvez pas partager pleinement leur chagrin. Vous pouvez faire preuve d'empathie, mais vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Et surtout, les gens qui ont perdu un être cher réclament justice. Mais dans le terme de réclamer justice, il y a parfois réclamer des coupables. Voilà, réclamer des coupables, exiger des coupables qui parfois sont des seconds couteaux. Et c'est aussi tout l'enjeu de ces procès auxquels on assiste aujourd'hui, c'est que vous avez parfois réuni des têtes pensantes et des seconds couteaux.
Et les parents d'incriminer l'État, disant que l'État a laissé faire. Parce qu'il y a aussi ça en permanence, et c'est un discours que d'autres juges peuvent tenir. C'est-à-dire qu'on a manqué parfois de dureté, qu'il aurait fallu serrer la vis davantage. Enfin, on sent aussi qu'au sein des juges d'instruction, enfin des juges antiterroristes dans le livre, tous ne sont pas positionnés exactement de la même manière sur le sujet.
Ah, il y a même débat entre eux. Oui.
Alors, en fait, ça m'intéressait justement de décrire une femme qui était de gauche, dont le père était un militant d'extrême gauche, qui en plus avait été incarcéré, donc elle a un rapport à l'incarcération très particulier. Et effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui, même s'ils ne laissent jamais paraître leur conviction au moment des prises de décision, ont évidemment des débats sur des grandes questions de société, parce que ce sont avant tout des citoyens aussi. Hein.
Vous l'avez compris, un roman passionnant qui s'appelle La Décision chez Gallimard, tellement bien écrit par Karine Tuile qui est notre invitée. On est ravis que vous soyez là et pour la première fois dans cette bande originale. Le problème, c'est que tout le monde ne vous aime pas, ça vous le savez, Karine.
Morgane
Gallimard, ne vous aime pas, mais pas du tout. Peste.
Karine Tuile, je vous aime pas. Moi, je vous ai découvert en lisant Les Choses Humaines et je m'en souviens très bien. Il y a des livres qui marquent par leur histoire, d'autres par leur style ou d'autres parce qu'on se souvient très précisément du moment où on l'a lu, ou les trois. Moi, je me souviens très bien des Choses Humaines parce que je l'avais lu pendant les vacances de Noël 2019 sur une plage. Oui, je sais, plage à Noël. Écoutez, avoir la gueule de Laurent Voulzy à 31 ans, faut bien qu'il y ait des petits avantages. On m'avait conseillé le bouquin, mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et je me souviens, la première partie commence avec une citation de Bernanos. Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. Eh bien, figurez-vous que ça m'a marqué parce que comme l'immense connasse que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai Instagrammé ça, Karine. J'ai fait ça parce que nous dit Bernanos? Ben, j'en sais rien. Mais la phrase avec un palmier derrière, franchement, c'était stylé. Ça me donnait un petit côté intello des mers qui était trop bien. C'est très vérifiable sur mon compte, hein, ce que je dis. Moi, au début, j'avais lu Bernardos sous la citation et je me suis dit, putain, Zorro, ça peut pas avoir le coup de le mater en VO. Et ce qui m'a choqué, vraiment en repensant à cet acte, c'est que je me souviens avoir posté la photo avant même d'avoir commencé le livre. Donc ça raconte quand même que le plus important pour moi à l'époque, c'était de montrer que je lis des livres dans un endroit paradisiaque et que je mets mon cerveau sur pause pour en informer le peuple via Instagram. Peuple qui est forcément collé à son écran de téléphone quand moi, machine de culture, j'ai pas le temps car j'en suis déjà à la page 4 en fait. Photo postée, je pose le bouquin, j'ouvre ma petite bouteille d'huile de monoeil que je commence comme d'habitude à boire par petite gorgée régulière. Voilà, si je peux me fendre d'un conseil, un bronzage uniforme et de qualité, ça commence par l'intérieur. Ouais. La dernière fois, un médecin pendant une écho m'a dit « Ah, votre vésicule, elle a des origines, non? Vos poumons, ils sont ultra bronzés. » Alors, après, peut-être qu'il me disait d'arrêter de fumer et que je suis dans le déni. Oui. Et là, sur ma plage, drame, quelqu'un commente mon poste en me disant « Alors, t'as pensé quoi du livre ?» Oui. Et merde. Bon, bah, je vais le lire du coup. J'ai posé ma bouteille d'huile, renvoyé l'enfant qui me faisait de l'air avec une feuille de bananier et je vous vois venir. C'est de l'esclavage que si je le paie pas. Hein. Et là, avec son euro par jour, je peux vous dire que à la fin de la semaine, ça en fait des Happy Meal. Donc je commence finalement le livre. Et la magie de la littérature, quand elle est bien écrite, je l'ai lu d'une traite. J'ai su qu'il était temps de rentrer parce que j'ai senti le soleil se coucher. J'ai passé l'après-midi à lire le bouquin. Je l'ai plié en une journée. J'avais des coups de soleil en forme de Goncourt des lycéens. Il aurait pu y avoir une prise d'otage chez le glacier en face que j'aurais rien vu. En même temps, ça aurait été une prise d'otage à chier chez le glacier. Donnez-moi ce que je veux ou je laisse le congélateur ouvert. Bah ça, dans ma bouche, c'est une histoire nulle. Mais sous la plume de Karine Tuile, ça serait un bouquin de 400 pages. Qui s'appellerait Chaîne du froid, un roman sur une boule vanille en quête de son identité, depuis qu'elle doit juger le meurtre d'une boule chocolat accusée à tort de s'être posée sur le mauvais cône en cherchant à fuir sa condition sociale pour devenir sorbet. Est-ce que j'ai aimé le livre? Oui. Est-ce que j'ai une petite dalle aussi? Du coup, bonne émission.
Merci, mon gars.
Et on te retrouve ce vendredi à Bazancourt dans la Marne.
Tout à fait.
Oui.
Mais quand même, le roman s'appelle La Décision. Le roman ne s'appelle pas La Juge Antiterroriste. Le roman ne s'appelle pas elle a la vie.
On y a pensé. Hein,
elle a la vie de la France entière sous sa responsabilité.
C'est un peu long, ça.
Oui, c'est vrai. Ça serait pourquoi pas. Mais La Décision. Et c'est vrai qu'on est confrontés tous, sans être à des postes aussi délicats, importants et avec autant d'incidence sur les décisions. Et d'ailleurs, c'est c'est ce qu'il y a dans votre roman aussi, c'est qu'elle doit prendre des décisions, elle doit analyser une situation et prendre une décision en se demandant, c'est la question qu'on s'est posée tout à l'heure d'ailleurs, quelle est la définition d'une bonne décision? Est-ce que c'est celle qui nous arrange ou qui va arranger les autres?
C'est ça, moi je dirais déjà que c'est une décision qu'on peut assumer. Et c'est le plus difficile, parce que parfois on prend des décisions qu'on finit par regretter, et une fois qu'on les a prises, il faut les assumer. Mais ce qui était intéressant, je crois, dans cette expérience littéraire, c'était que on la voit prendre des décisions dans sa vie professionnelle et dans sa vie intime. Et en fait, dans sa vie professionnelle, tant bien que mal, hein, c'est une grande juge, elle est puissante, elle arrive à bien faire son travail. Mais dans sa vie privée, elle est incapable de prendre la moindre décision. Elle est dans une forme de vulnérabilité. Est-ce qu'elle doit quitter son mari après 25 ans de mariage? Est-ce que cet équilibre ne l'aide pas aussi à affronter la dureté de son monde professionnel? Donc c'est des questions qui finalement sont universelles, parce que chacun d'entre nous est amené un jour ou l'autre.
Et qui parfois n'ont pas de réponse.
Son mari, alors, elle est aussi confrontée aux religions dans tous les sens du terme. Problème de l'islamisme et du terrorisme dans son travail. Problème de la montée de l'envie de son mari de renouer avec sa religion juive, en l'occurrence. Problème de sa fille qui tombe amoureuse d'un musulman. C'est-à-dire la religion, là aussi, est présente sous toutes les facettes.
De racisme aussi, de ne pas entendre qu'un couple mixte peut être un couple heureux. Parce
pas,
que
de
c'est,
sa, pas de sa part, en tout
c'est
cas.
C'est le discours du mari,
voilà,
en fait.
Oui,
de ne pas tolérer ça.
Exactement. Ils ont fait un mariage d'amour. Lui vient d'un monde juif orthodoxe. Il a renié sa famille pour pouvoir faire ce mariage. Et 20 ans après, en fait, il lui renvoie au visage tous ses griefs en lui disant « Je regrette d'avoir rompu avec ma famille. On n'a pas pratiqué les préceptes du judaïsme. » Lui est dans un retour avec une certaine dureté, en fait. Et on voit bien que le couple est brisée.
Et justement, elle doit quand même prendre des décisions. Elle doit prendre des décisions sur l'avenir de sa propre fille, elle doit prendre des décisions sur l'avenir de son couple, elle doit prendre des décisions dans son boulot, prendre des décisions de savoir est-ce que, à 50 ans, comme par hasard, en s'approchant, et c'est l'un des points communs, je veux pas aller plus loin, entre vous et votre personnage, Alma Revel, est-ce qu'elle doit changer de vie, tout reprendre entre guillemets à zéro pour renaître.
Oui, parce que pour la première fois de sa vie, elle est dans une position où elle vacille, c'est-à-dire elle connaît un grand amour, une grande passion sexuelle avec cet homme, et elle se demande si elle doit renoncer à tout ce qu'elle a construit en 25 ans, alors même que son propre couple se délite brutalement, puisqu'il y a quand même aussi une incompréhension intellectuelle.
Ça aussi, ça a toujours été un sujet, parce qu'on parle beaucoup de justice et du côté humain dans la justice, et même dans les choses humaines, il y avait ce témoignage avec chacun sa vérité, chacun son point de vue. Donc humaniser la justice et les témoignages et les actes, ça a été votre credo, mais aussi la durée de vie d'un couple, ça vous a toujours travaillé.
Oui, j'aime bien saisir les êtres au moment où ils sont le plus vulnérables, en fait. Donc les couples heureux ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les couples au moment où ils doutent, où ils se fracturent, où il y a des incompréhensions. Et on le voit bien aussi même dans leur vie intime, il ne se passe plus rien. Donc comment est-ce qu'on reconstruit un couple dans ces conditions?
Alors, qu'est-ce qu'il y a de vous dans Alma Revel?
Ah ben ça, je vous le dirai pas. Allez, mais c'est intéressant.
Je pense que c'est. On vous dit ce que vous voulez.
Alors
après,
c'est une question intéressante, parce que je crois que quand on écrit, on est vraiment pleinement libre. C'est comme s'il n'y avait plus de filtre. D'ailleurs, même Nathalie Sarraute disait, on n'est ni homme ni femme. On est vraiment un autre, en fait. Et ce sont les autres qui nous renvoient par leur lecture à notre réel. Mais nous, on n'en a absolument pas conscience. Donc moi, je vais vous dire, il n'y a rien de moi. Et en même temps, il y a de moi partout.
Il y a un peu de vous partout.
Je suis sûrement dans tous les personnages aussi.
Et ce personnage d'Alma Revel, pardon, a l'air complètement étrangère à la notion de crispation identitaire.
Oui,
on la voit même pas traversée par tout ce qui traverse finalement, tout ce qui l'entoure, que ce soit son mari, que ce soit les gens qu'elle auditionne, que ce soit la société en général, en fait.
Oui. Pour moi, c'est une femme qui est très attachée à la liberté. Son père ayant été un militant d'extrême gauche, donc elle se méfie un peu des idéologies quand même. Et puis, il a été incarcéré. Et donc, cette notion de liberté physique et liberté mentale est très importante chez elle. Et je ne voulais pas justement qu'elle ait des affinités particulières, que ce soit intellectuelles, idéologiques, religieuses. Même elle, quelque part, elle ne comprend pas finalement les griefs de son mari, y compris quand il refuse l'union de leur fille avec un musulman. Elle comprend pas. Elle lui dit mais pourquoi ? C'est parce que c'est un arabe. Et lui dit non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que je pense que la mixité mène à l'échec. Et elle comprend pas ce discours en fait, parce que pour elle, la mixité, c'est la richesse.
Ouais, son problème, c'est pas qu'il soit arabe. Son problème, c'est qu'il n'est pas juif. C'est plutôt ça sa réaction. Ça, pour lui, il faut, et d'ailleurs c'est ce qu'il va peut-être envisager dans sa vie, c'est-à-dire ne pas forcément aimer une autre femme, mais en tout cas être attiré par une juive orthodoxe.
Oui. Il a vraiment cette question. C'est vraiment un homme qui incarne quand même une forme de crispation identitaire avec un repli aussi. Et en même temps, il y a quelque chose dans son parcours, un rapport à la foi et à la spiritualité qui peut être beau, parce que c'est un homme de l'étude, c'est un homme qui a été abîmé par ses échecs littéraires, puisqu'il a eu le Goncourt pour son deuxième roman, et après, il a plus du tout eu de succès. Donc, quelque part, il est aussi touchant. Mmh. Enfin, moi, j'aime bien, dans mes romans, justement, travailler les ambiguïtés. Finalement, les personnages, ils sont jamais ou tout noirs ou tout blancs, y compris, d'ailleurs, le djihadiste, quand on suit son parcours.
Ils sont tous humains. C'est même quand ils sont des monstres, ils sont humains.
Oui, voilà. Parce que c'est intéressant, elle refuse, Alma refuse justement ce qualificatif de monstre. Elle dit que ce sont des gens qui, à un moment donné, ont éteint l'interrupteur de l'intelligence émotionnelle, mais elle essaye de toujours considérer comme des êtres humains les gens qu'elle a en face d'elle.
Elle leur serre la main d'ailleurs.
Et elle leur serre la main.
Premier geste.
Karine Thuil signe La Décision. La seule que vous puissiez prendre, c'est de lire ce livre qui est sorti chez Gallimard. Non, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça.
Côté démocrate de Nagui.
On aime bien en tant qu'auteur. Ça.
Voici Paul Mirabel.
Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Extrêmement, oui. C'est gênant même tellement ça va.
Écoutez, moi aussi ça va. Juste cette semaine, j'ai enfin pris conscience que j'étais un peu stupide. Sais ce que vous vous dites. Bon, c'est pas trop tôt, ça fait 2 ans qu'on lui dit. C'est le seul qui tire la porte du studio alors qu'il y a écrit en gros poussé.
T'es pas le seul.
En fait, le problème quand t'es stupide, c'est que t'es pas forcément au courant tout de suite. C'est comme blond vénitien, tu peux le découvrir assez tard dans la vie. Et je parle pas pour moi, bien sûr, je parle pour un ami qui m'a dit de parler de ça. Je me suis rendu compte que j'étais stupide puisque je perds systématiquement mes clés en ce moment. Donc j'ai fait un double des clés de chez moi. Sauf que j'ai caché le double des clés de chez moi chez moi. C'est quand même significatif d'un cortex préfrontal plutôt restreint. Je vois que je suis stupide aussi parce que j'ai 26 ans et j'arrive encore à me faire surprendre par la vie. Par exemple, ce matin, je suis sorti de chez moi et je me suis dit, mince, il fait froid. Alors qu'à 26 ans, t'es censé savoir qu'il fait froid en hiver. Tu te fais surprendre une fois quand t'as 5 ans et après, c'est bon, tu prévois un manteau pour le reste de ton existence. Après, pour ma défense, j'ai un entourage qui ne m'aide pas forcément non plus. Par exemple, j'ai un cousin. Je sais qu'à part le mot cousin, il n'y a rien qui nous relie. Je le sais puisqu'il n'y a pas longtemps, on regardait un match de foot dans lequel il y a eu un coup franc. Là, quelqu'un qui a crié « frappe-le », il m'a frappé moi. Après aussi, la subtilité du problème, c'est que t'es pas forcément obligé d'être stupide pour dire des stupidités. C'est une frontière très fine. Par exemple, j'ai vu là que récemment, Éric Zemmour avait dit j'ai pas besoin de terminer la phrase, puisqu'en général, quand tu commences une phrase par Éric Zemmour, ça termine rarement par « il a dit un truc que j'ai trouvé à la fois super pertinent et hyper original ». Vraiment, cette histoire de changement de prénom, ça m'a vraiment ému. Il y a des choses dans la vie qui rendent stupide parfois aussi. Par exemple, ça a été prouvé scientifiquement que faire une tête au foot, ça pouvait endommager le système cérébral. Ouais. Et moi, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup joué au foot. Et c'est sûrement pour ça que j'ai 2 paires de clés chez moi et que ça fait une semaine que j'essaie de comprendre pourquoi le mot court est plus long que le mot long. Mais j'ai revu mes objectifs à long terme. Du coup, j'aimerais bien devenir de plus en plus intelligent dans la vie. J'aimerais bien qu'un jour on se croise dans la rue dans 7 ans et que vous me disiez, tiens, j'ai croisé Paul hier, qu'est-ce qu'il est devenu intelligent? Alors son mariage avec Jennifer Lopez, ça l'a vraiment tiré vers le haut. C'est dommage qu'elle l'ait quitté pour ses petits problèmes de calcul rénaux, mais il avait l'air tellement épanoui. J'aime même être transparent avec vous. Mon but à long terme, c'est de faire des citations. Il y a des gens dans l'histoire qui ont laissé de grandes citations derrière eux. Moi, le seul truc que j'ai laissé derrière moi pour l'instant, c'est la porte du studio ouverte. Donc j'ai quand même une petite marge de progression. C'est toujours pratique qu'une citation d'ailleurs pour avoir l'air intelligent en société. Ponctues ta phrase par « et d'ailleurs, tu sais que comme disait Gandhi, l'important c'est de prendre les 3 points ». Bon, il n'a pas vraiment dit ça, mais il aurait pu. Du coup, j'ai quand même pris l'initiative. Je vais vous proposer une situation personnelle, à laquelle j'ai longuement réfléchi. Alors au début, j'avais pensé à « construisons dans un monde qui bouge ». Mais en fait, c'est déjà le slogan du CIC, donc ça a impacté moi. Après, j'ai pensé aussi à la bande de chacals, vous allez tous mourir comme des chacals, mais c'était déjà pris dans Astérix, Mission Cléopâtre. Donc j'en ai trouvé une qui est, tenez-vous bien, 2 points, ouvrez les guillemets, dans la vie, parfois il y a des gens bien et parfois des gens moins bien.
Pas mal.
Voilà. Alors, c'est pas une citation de ouf non plus.
Non.
Après, tu peux pas être fort à ta première citation. Moi, je pense que Confucius, avant de dire choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, il a dû avoir un brouillon et qui crie choisissez un travail que vous aimez ou allez remplir votre déclaration d'intermittence chez Pôle emploi. Mais il s'est rendu compte que ça manquait un peu de forme après. J'ai mené mes recherches sur vous d'ailleurs, Nagui, et voilà. Vous avez pas fait de citation.
Non, c'est pas
vrai. Oui, 30 ans de carrière dans l'audiovisuel et ouais. La seule phrase qu'on retient, c'est et tout de suite les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Non, le seul trait d'esprit que j'ai trouvé de vous, après environ 900 heures de recherche, c'est en parlant de votre femme, je cite, elle est très importante, j'étais pas pareil avant. Et c'est vrai que c'est tellement subtil comme réflexion, on sent à la fois toute la profondeur et toute la poésie dans le j'étais pas pareil avant. On a trouvé sa réponse d'ailleurs inquiet, il est très important pour moi aussi, mais j'étais clairement pareil avant. Bon, je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille donner le double de mes clés à Jennifer Lopez, parce que c'est une femme très importante, j'étais pas pareil avant, et surtout n'oubliez pas, dans la vie, parfois il y a des gens bien et parfois des gens moins bien.
Et Paul, on se retrouve à l'Olympia les 8, 9 et 10 et 11 même décembre prochain et tu seras aussi en tournée dans toute la France.
Oui. Et André Gide a dit « Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent ». C'est en exergue de votre roman. Karine, je voulais revenir sur cette quête de vérité aussi. Est-ce qu'il y a eu à un moment dans votre vie, un sentiment d'injustice pour que vous analysiez, décryptiez, intéressiez autant à la justice et au-delà de son fonctionnement, parce que quand on dit justice, il y a immédiatement injustice qui arrive de l'autre côté aussi. Il n'y a pas que la prison, la condamnation, il y a les erreurs.
C'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose. Je ne sais pas, je pense que ça vient de mes origines, puisque moi, je suis fille d'immigrés juifs d'Afrique du Nord et c'est vrai que j'ai été élevée dans cette idée de la douleur de l'exil, d'avoir dû quitter précipitamment un pays, le déclassement social. Moi, j'ai grandi dans l'idée qu'il fallait pas déranger. Mes parents me disaient on ne doit pas déranger les Français alors que j'étais née en France. Je me disais mais je comprends pas cette phrase.
Il faut apprendre la langue, travailler le latin. Et...
Voilà, être bon en latin, d'être très bon à l'école.
Pareil, tout pareil.
Et en fait, je pense que ça a alimenté chez moi à la fois une forme de rage sociale, même si le terme est fort, et je pense que c'est un bon combustible pour l'écriture. Et puis très tôt, ma mère m'a donné à lire des textes de manière inconsciente, et c'était des textes qui avaient toujours une forte connotation politique ou sociale.
Comme l'étranger.
Voilà, comme l'étranger. Donc ce rapport à l'humiliation, à l'injustice, m'a toujours beaucoup porté. Et puis j'ai fait des études de droit, et donc je pense qu'à un moment cette obsession-là s'est incarnée dans la littérature. Mais c'est
et
vrai que
votre souhait aussi d'humaniser. Pour sûrement mieux comprendre, présenter de la manière la plus objective possible le point de vue de tous les impétrants dans votre roman. Tous les personnages ont chacun, il n'y a aucun jugement négatif, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Vous voulez qu'on les comprenne.
En fait, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus binaire et les réseaux sociaux ont ajouté...
Rien arrangé pour
voilà,
ça.
Voilà, n'ont rien arrangé. Et en fait, on nous demande des jugements péremptoires, à l'emporte-pièce, sur des affaires qu'on ne connaît pas, sur des gens qu'on ne connaît pas.
On doit avoir un jugement, d'ailleurs. Est pour, on est contre.
Et
immédiat.
Et en fait, on oublie à quel point l'être humain est complexe. On rencontre des êtres humains qui ont des parcours sociaux exceptionnels et qui, dans la vie privée, sont des vraies ordures et l'inverse. Et ce qui m'intéresse dans le roman, puisque c'est quand même l'espace du temps long, c'est de décrire des personnages qui ont cette complexité. Et je pense qu'il y a un désir, d'ailleurs, dans notre société, en réalité, un désir de revenir à cette complexité-là, un refus du politiquement correct, une envie de libérer la parole pour qu'il y ait du débat, en fait, parce que sinon, on ne peut pas faire évoluer la société si on ne pense pas contre soi.
Et puis, il y a dans la manière dont vous humanisez justement tous vos personnages, les questions, les réponses faites par un terroriste sur ses attentats, sur ses actes et sur sa motivation. Et moi, il y a quelque chose qui m'a glacé quand il dit, ou vous lui faites dire, mais c'est vrai qu'on peut avoir entendu ça souvent aussi, vous vous rendez compte que vous avez tué des innocents. Non, je n'ai pas tué des innocents, j'ai tué des mécréants. Ils étaient en train d'écouter de la musique et en train de boire et de s'embrasser. C'est-à-dire les trois choses que l'on aime faire et que l'on fait très naturellement en se disant je fais de mal à personne, je suis libre, on est heureux et on retrouve les terrasses justement et on embrasse qui on a envie d'embrasser et on trinque.
Il n'y a pas de rationalité dans tout ça.
C'est ça. Mais d'entendre le côté. Vous avez tué des innocents. Non, on est mécréant. On est condamnable dès l'instant où on boit, où on s'aime et où on écoute de la
musique.
Parce
que c'est des gens qui sont embrigadés, en fait. C'est des idéologues qui finissent par les contaminer.
Par
leur inculquer une certaine vision du monde à laquelle ils finissent par adhérer. Et c'est la rencontre entre des conceptions du monde radicalement différentes. Et c'est aussi ça que j'avais envie de montrer dans le livre, c'est comment, quand vous êtes juge d'instruction antiterroriste, vous allez pouvoir tenter de comprendre, de rendre votre décision face à quelqu'un qui, en plus, vous dit peut-être pas la vérité, ou qui finalement vous rejette en disant « Non, vous êtes une mécréante, je ne veux même pas vous parler ».
Alors justement, nous allons recevoir tout à l'heure Marc Trévidic, juge d'instruction ancien juge d'instruction du pôle antiterroriste. Ce qui va nous intéresser avec lui, c'est comment aussi fonctionne un juge, comment humainement il se situe, d'ailleurs qu'il soit juge évidemment antiterroriste ou qu'il soit juge famille,
pour
juge
enfant,
pénal,
ouais.
Voilà,
ouais.
Juge pour enfants, parce que les décisions ont toujours forcément un impact sur la vie des autres. Morgane ?
Mais d'ailleurs, c'est combien de temps de recherche et de discussion avec les professionnels de ce milieu-là ? Parce que c'est ça qui est fou dans votre écriture, c'est que moi, la moitié du livre, j'oublie que c'est pas une juge qui écrit et qui raconte le quotidien de ce métier.
Ah ben ça me fait plaisir. Ça a été un travail de longue haleine. D'abord, comme j'ai dit, je m'intéresse à ce sujet depuis des années, en fait. Donc, c'est un sujet que je connaissais bien. Et puis, sinon, j'ai commencé à rencontrer des professionnels de cet univers à partir de janvier 2019. Donc, ça a ces deux ans et demi à peu près d'enquête.
C'est une vie pratique, le confinement, pour pouvoir travailler.
Oui, j'ai alterné. On pouvait quand même rencontrer des gens, heureusement. Et j'alterne toujours les phases d'écriture et les phases de discussion, de rencontre. J'ai aussi assisté à des grands procès pour terrorisme de ces dernières années. J'ai rencontré des présidents de cours d'assises, donc j'ai vu comment ils travaillaient. Parce que l'audience révèle aussi beaucoup de choses. Vous apprenez énormément sur le fonctionnement.
Sur la société aussi.
Sur la société.
C'est incroyable.
Vous avez souvent les familles aussi. Et ça, c'est passionnant de voir les familles parce que c'est des conceptions qui se confrontent, la douleur. Enfin, c'est vrai que c'est une petite société à l'échelle d'un procès.
Et la vitesse à laquelle, d'ailleurs, pour des délits communs, pour des plaintes ou des petits vols dans un supermarché ou dans une grande surface, c'est incroyable de passer une après-midi, une journée à un tribunal et de voir finalement tout ce que notre société peut avoir comme problème de voisinage, problème de petits vols, problème d'insultes, de bagarres et ainsi de suite.
Et de misère tout court,
et la vitesse à laquelle les juges, devant une espèce de pile de dossiers, doivent à un moment donné décider. Et puis on n'est pas au cinéma avec un jury qui va se retirer pour délibérer, pour réfléchir. Non, c'est la personne seule.
C'était tout le défi et l'intérêt de ce sujet, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai employé le jeu, mais c'était extrêmement difficile, parce qu'il fallait restituer sa pensée, de se mettre dans la peau d'un juge, de restituer son quotidien. Alors bon, moi j'ai choisi une juge d'instruction antiterroriste, mais c'est vrai que tous les magistrats vous raconteront la surcharge de travail, la difficulté de prendre des décisions.
Oui, et puis comment rentrer à la maison et jouer avec les enfants, et comment cloisonner, et comment se rendre compte de si on passe suffisamment de temps dans sa vie familiale. Et d'ailleurs, il me semble que Marc Trévidic, dans une interview, a dit justement qu'il en avait marre et qu'il voulait vivre une véritable vie avec ses enfants.
Moi, je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas.
On va écouter de la musique, celle que vous écoutez, Karine Tuile. Si vous travaillez ou pas en musique, vous allez nous le dire. En tout cas, vous écoutiez dans les années 90 Leonard Cohen.
Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep.
Encore un juif.
On
y va.
C'est horrible. Attends, je regarde ce qui vient après, non, ça va bien se passer. Amirmen.
À quelle occasion vous écoutiez Leonard Cohen ? Qui vous l'a fait découvrir ?
Et en fait, je ne sais plus comment je l'ai découvert, mais j'étais très jeune et j'étais fan de lui.
C'est la voix qui vous a fait vibrer ? C'est le texte qui vous a touché ?
Ouais, tout. Je le trouvais beau en plus. J'étais un peu amoureuse de lui, je crois. Et j'étais allée le voir en concert et je l'ai même croisé dans la rue. J'étais allée lui parler et après, j'avais écouté tous ses albums. Donc, à cette période de ma vie, j'écoutais Leonard Cohen.
Vous l'avez dit, vous avez fait du droit, vous prépariez même une thèse de doctorat sur la réglementation des campagnes électorales dans les médias. Qu'est-ce que vous vous destiniez à faire si, en parallèle, vous n'aviez pas écrit de roman et eu envie de devenir romancière à temps plein? Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier?
Alors, je pensais devenir avocate, mais j'avais la terreur des oraux, ce qui est quand même assez aberrant, puisqu'aujourd'hui, je me retrouve avec vous à parler de mes livres. Mais oui, je pense que je me serais destinée à une carrière d'avocate.
Et avocate spécialisée dans quelque chose où il y a vous parliez tout à l'heure de l'importance des parents, de l'éducation, de cette envie que vos parents ont eue aussi d'avoir des filles qui réussissent, de faire en sorte qu'elles aient tous les outils à disposition.
À défaut d'avoir eu un garçon, c'est pour ça que vous écriviez au masculin au début.
C'est le grand regret d'une famille méditerranéenne.
Ça l'est souvent.
Plus maintenant.
Encore. Ça peut l'être encore.
Répondez à la question, Karine Thuil, posée par Leïla, s'il vous plaît.
Pour vos parents, il y avait cette ambition aussi.
Oui. Évidemment, l'ambition de faire des hautes études. Et puis, le droit, c'est vrai que ça a incarné quelque chose de fort pour eux, ce que vous avez dit très justement tout à l'heure. Notamment, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des droits de l'homme, du droit de la presse, et la liberté d'expression, du pluralisme. En fait, c'est vrai que c'est un peu un retour aux sources, hein, tout ce que je dis sur l'importance du débat démocratique.
En 2013, vous écoutiez... Alors là, évidemment, c'est quand vous étiez comme une folle sur la piste de danse en train de vous éclater.
Voilà, je me souviens d'avoir beaucoup dansé sur cette chanson.
Il y a de quoi,
naturellement, je l'ai.
Vous écoutez de la musique en travaillant?
Un peu, mais j'évite parce que j'ai toujours l'impression que la musique finit par colorer le texte. Donc j'évite.
Et donc cette musique, ce titre
de Daft Punk? Non, j'écoutais pas du tout Daft Punk pendant que j'écrivais L'Invention de Novi.
Elle correspond à quoi? Juste au plaisir de danser, de partager des moments qui nous manquent aujourd'hui?
Oui, je me souvenais que c'était ça a quand même été un tube, hein, donc là j'ai pas fait une découverte majeure, mais oui, c'est une période qu'on regrette. Ouais.
2013, on va parler aussi d'un événement dont on a beaucoup entendu parler dans les journaux, c'est la vague de suicide à France Télécom, qui a été, c'est aussi pour montrer qu'un romancier, un auteur, se nourrit de ce qui l'entoure et que les lectures qu'il peut faire comme ça ne sont pas anodines au quotidien.
Oui, bien sûr. Moi, je suis un auteur qui se nourrit beaucoup du réel, de ses lectures, de l'actualité aussi, parce qu'un fait divers, ça raconte aussi l'état de la société à un moment donné. Et je crois que cette vague de suicides à France Télécom racontait la fragilité et la vulnérabilité des salariés et du même coup, l'obsession de la performance, de l'évaluation, l'ultra-capitalisme qui ont mené la société aussi dans l'état de déclin où elle est aujourd'hui.
Comme on continue de parler évidemment avec Karine Thuil de la décision et comme annoncé, Marc Trévedi nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Je dois encore dire monsieur le juge?
Ah, je suis président de cour d'assises donc.
Monsieur le président.
Carrément.
Allons-y, monsieur le président.
Tu flattes.
Je préfère le rencontrer sur mon lieu de travail si tu veux.
Tu fais rien de travers.
Ouais, d'habitude c'est ailleurs.
Donc ça y est, vous avez réussi à être à Versailles puisque vous étiez à Lille et c'était
oui,
ça.
Oui, voilà, je suis revenu à Coappelle Versailles et je fais les cours d'assises des quatre départements, Nanterre, Pontoise, Versailles et Chartres.
Voilà. J'ai lu dans une interview que vous disiez que vous n'en pouviez plus de votre rythme de vie, de votre travail chronophage et de ne pas avoir le temps d'aller faire du vélo avec vos enfants. Je trouvais ça tellement touchant.
Il fallait faire cycliste, monsieur.
Non, mais c'est pas ça. Mais faut déjà, à l'époque, il fallait déjà que les gardes du corps aiment le vélo aussi. Penser à eux quand même.
Non, mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on n'a donc pas une vie normale quand on est juge.
Vous sortez le moins possible parce que quand vous sortez, vous êtes protégé. Donc, du coup, ça vous retient un peu chez vous. Hein. Alors, à part quand vous êtes à l'étranger, parce que la moitié de mon boulot était à l'étranger, dans des missions à l'étranger. Donc là, c'est différent.
Donc en Syrie, c'était plus sympa, vous pouviez faire du vélo avec
Non mais là c'est encadré, il y a une sécurité beaucoup plus importante, c'est une mission à l'étranger. Quand on est en France, c'est différent. On est dans un faux plat, pour parler du vélo. Ouais. On continue. Donc, on est dans un faux plat parce que, c'est ce que disait l'un de mes gardes du corps, c'est très piégeux. La routine fait que la protection diminue, on se méfie moins. Et c'est là où ça devient dangereux.
Ouais. Et donc, de l'importance de la vie, de l'amour de la famille, de ses proches. Et là, le choix, c'est comme imposé à vous en disant,
On m'a aidé quand même.
Je crois avoir lu la phrase de oui. j'avais une vie de con. Enfin, je crois.
Oui, voilà, je me suis rendu compte après, si vous voulez. Vous commencez pas d'emblée à avoir la pression d'être jugé antiterroriste. Vous rentrez là-dedans. Et après, ça continue, les mois passent, les années passent, et vous vous rendez compte du poids et que ça vous bouffe la vie. Mais pendant que vous y êtes, très franchement, non, vous êtes dedans, quoi.
Et la décision, puisque c'est ouais. là le sujet quand même, prendre une décision, même si on n'est pas seul, et on le comprend aussi dans la manière dont la justice fonctionne en France, soit par binôme, soit plusieurs autour d'une table, à se dire qu'est-ce que l'on fait de ce genre de situation extrêmement grave. Mais prendre une décision, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est plus facile pour vous de prendre une décision dans votre cadre professionnel que dans votre cadre privé, si je peux me permettre cette question?
Oh, c'est compliqué. Je n'ai pas eu de décision majeure à prendre. J'ai jamais dit, tiens, j'ai envie de quitter ma femme. J'ai dû la rassurer tout de suite, déjà. Mais prendre une décision dans la justice, non, on est seul. Je suis pas tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, dans le livre de Karine Thuil, elle est seule. Même quand on est à plusieurs dans un dossier antiterroriste, il n'y en a qu'un, le premier désigné, qui est responsable des détentions provisoires.
C'est vrai.
Donc, faut jamais oublier que là, c'est une décision qu'on prend seul. Et moi, j'ai eu à prendre des décisions d'autre nature, mais qui étaient très, très angoissantes dans l'antiterrorisme, dont on parle moins. C'est le top départ. C'est à quel moment on interpelle les gens. Et ça, c'est une angoisse. Parce que, et j'ai connu un âge d'or où on enquêtait très longtemps sur les groupes terroristes et on voulait les arrêter au bon moment. Mmh. Quand on avait suffisamment de preuves, qu'on avait identifié tous les membres du groupe. Et j'ai eu des sueurs froides.
C'est plus le cas aujourd'hui, vous voulez dire?
Non, on arrête tout le monde tout de suite parce qu'il y a le parapluie. Les attentats ont créé une telle psychose, si vous voulez. Mais moi, j'ai connu avant aussi.
Donc, on est plus dans la précaution dans la décision.
Mais du coup, on ne sait pas trop à qui on a affaire et ça donne des gros problèmes, comme pour Alma, si vous voulez. C'est-à-dire, on n'a pas pu voir ce que valait la personne qu'on a arrêtée parce qu'on l'a arrêtée tout de suite.
Oui, mais c'est quand le bon moment? Parce qu'à force d'attendre,
justement, le bon moment en termes d'enquête, quand vous bossez sur. Je me souviens d'un groupe, je vais vous imaginer ça, un groupe qui préparait des attentats, mais qui avait besoin d'argent avant, qui faisait des braquages. Mmh. On n'avait pas identifié tous les membres de ce groupe. Et pour nous, le bon moment, c'est d'avoir identifié tout le monde pour ne laisser personne dehors. Donc vous attendez, et à un moment donné, on a perdu le contrôle, ils ont fait un braquage alors qu'on les surveillait, hein, qui aurait pu mal tourner. Donc vous êtes toujours là, comme ça, à se dire, si je tape trop tôt, il va me manquer des choses, des pièces au puzzle. Et sinon, voilà. Donc ça, c'est une décision très difficile, parce que si jamais, alors que vous les surveillez, il faut un attentat où il y a des morts, vous imaginez la responsabilité, qui est à peu près du même niveau.
Et quand on prend la décision trop tard, est-ce qu'on peut être incriminé pour ça?
On peut vous le reprocher, très clairement. Alors moi, la seule fois où ça a complètement dérapé, malheureusement, ceux qui ont payé des frais, mais sans avoir de problème pour leur santé, c'est, enfin, entre guillemets, c'est un couple qui a été pris en otage, une femme et son petit gamin, parce que le mari avait été emmené à la poste pour donner de l'argent pendant qu'ils étaient en otage, du financement. Hein. Et ça, bon, c'est vrai qu'on aurait pu l'éviter en les arrêtant un peu avant.
C'est le nerf de la guerre, l'argent. C'est l'un des pans avec lequel justement il peut y avoir une sorte de talon d'Achille dans une organisation, ou au contraire une
pour les attentats structurés.
Ouais, oui.
Pour les groupes qui ont envie d'être pérennes et faire plusieurs attentats et vraiment avec des moyens importants. Aujourd'hui, on a tellement d'Olibrius qui sortent avec un couteau qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ça on est bien d'accord. Mais on a eu des époques aussi d'attentats très structurés, il fallait de l'argent.
Quelle est pour vous la définition de la bonne décision?
C'est de prendre une décision. Il n'y a rien de pire dans la justice que de ne pas en prendre. Alors, il n'y a jamais de bonne décision.
Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise,
non,
il faut juste la prendre.
Il y a des plus ou moins bonnes, des plus ou moins mauvaises. Et encore, généralement, on vous dit qu'elle était mauvaise a posteriori, on n'est pas dedans au moment où on la prend. Mais par contre, ne pas prendre de décision, c'est dramatique.
Une décision n'est pas forcément bonne pour tout le monde.
Elle n'est pas tellement bonne.
Est-ce que la bonne décision est celle qui est la meilleure pour la plus grande majorité, même si ce n'est pas...
On a des injonctions contradictoires, pour prendre un terme à la mode, et qu'on trouve très bien dans la décision de Karine Thuil. C'est-à-dire qu'en fait, on est juge. On doit assurer la sécurité, lutter contre le crime, tout en protégeant les libertés individuelles.
C'est ça.
Et on peut pas sacrifier l'un ou l'autre. Mmh. Et donc, ce qui est vrai pour tout juge, l'est encore plus dans l'antiterrorisme, où la pression de la sécurité est plus forte. Et alors là, pour faire respecter... pour garantir les libertés individuelles avec une pression pareille...
La pression de l'État, alors? Vous parlez de cette pression.
De l'état de l'opinion publique, de tout le monde, si vous voulez. On sait qu'on ne vous pardonnera pas de, justement, d'avoir joué les libertés individuelles sur la sécurité des Français. Donc, on est vraiment là, dans une situation très difficile.
Marc Trévidic, Monsieur le Président, je voudrais rappeler le roman du terrorisme sorti en livre de poche. Ce qui est passionnant, c'est que là, vous êtes allé décortiquer la genèse du terrorisme, c'est-à-dire l'épée de Damoclès de la mort et la manière dont certains se servent de cette peur pour...
Oui, bah vraiment l'essence du terrorisme. Ouais, à quoi sert le terrorisme et surtout revenir à la rationalité du terrorisme.
Étymologiquement, c'est quoi? C'est faire peur avec la mort?
C'est l'utilisation de la violence à des fins politiques. Et donc les fins politiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui servent d'autres personnes pour atteindre leur but politique. Et bon, voilà, comme la guerre sert aussi à ça, la guérilla sert aussi à ça, le terrorisme sert aussi à ça. Mais ça, c'est le terrorisme rationnel qui a disparu. Et c'est plus les jeunes qui sont rentrés de Syrie, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Moi, j'ai connu des gens où il n'y avait pas de haine. Quand je parlais avec eux, ma première époque où j'ai fait de l'antiterrorisme, aujourd'hui, à la fin, c'était des gens qui nous détestaient. La haine l'avait emporté sur la raison, c'était même plus de la stratégie, le terrorisme n'était plus une méthode, c'était un déferlement de violence pulsionnelle qui était complètement irrationnel.
Oui, mais pardon, puisque vous êtes passé aussi aux affaires familiales, on peut aussi se poser la question de savoir si une décision dans les affaires familiales ne peut pas avoir une incidence ensuite sur un enfant, un adolescent qui va partir en vrille avec un sentiment d'injustice et une volonté de se venger d'une société qui l'aura condamné ou séparé de ses parents.
Le problème dans toute matière pour un juge, c'est qu'on prend parfois les décisions sans avoir les moyens de la prendre, c'est-à-dire la connaissance. On voit des juges d'affaires familiales qui vont décider de faire ça, de ça ou ça d'un enfant, de confier, mais sans en fait ne savoir la vérité. Ils l'ont pas. Ils ont des brides qu'on vont leur donner les avocats plus ou moins bien. C'est pareil aujourd'hui dans le terrorisme. On n'a plus la vérité sur quelqu'un parce qu'on n'a pas le moyen d'avoir une enquête approfondie. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir les moyens de savoir exactement pour prendre les bonnes décisions.
Le roman du terrorisme publié chez Poche, signé Marc Trévidic. Merci d'être.
C'est moi qui vous remercie. Merci Karine.
À ce micro, Karine. Oui, vous avez raison de rappeler à quel point aussi elle reflète bien dans son roman le contexte à la fois humain de la justice et toutes ces facettes dont on a parlé. La décision, c'est chez Gallimard. On continue d'en parler avec elle jusqu'à 12h30 et voici le héros du jour, Daniel Morin.
Oui, absolument. Mes chers amis, aujourd'hui, mon héros, ou plutôt mes héros, auraient pu être les Américains. Oui, selon une enquête parue dans la revue universitaire Archive of Sexual Behavior, les Américains font de moins en moins l'amour. Un chiffre, les jeunes Américains auraient 4,32 rapports intimes par an.
4,32. Ouais, c'est le problème du
4,32. C'est déjà pas mal.
Par an?
Ouais, par an.
T'as dit 4,32 par an?
Par an. Eh ben, vous savez quoi? Ils ont raison. Ils ont raison, les Américains. Faire l'amour, c'est tellement années 70. C'est tellement ringard. On n'est pas des bêtes, merde. On n'est pas obligé de se renifler, de se grimper dessus pour s'entendre, enfin. Pas obligé de transpirer, d'échanger nos fluides, nos miasmes. Les gestes barrières. Merde! De la beauté du sentiment, de l'élan du cœur. C'est ça qu'on veut. Oui, revenons aux choses simples, aux valeurs mignonnes, aux sensations pures. Les balades, main dans la main, yeux dans les yeux.
Nakarta.
Le souffle doux d'un zéphyr d'amour qui, au même moment, flatte nos nuques et nous pousse vers un futur commun fait de promesses d'épanouissement et de bonheur sans nuages. Est-ce que je crois une seconde à ce que je suis en train de dire? Pas du tout. Non, non, je n'y crois pas. Du coup, les Américains ne sont pas mes héros du jour. Non, mon héros aujourd'hui, c'est Jean-Michel Blanquer. Oui, absolument. Car selon Mediapart, notre bien-aimé ministre de l'Éducation nationale aurait présenté le protocole pour l'école la veille de la rentrée depuis, comme vous venez de le dire, Ibiza.
Et oui.
Tout le monde a l'air choqué. Bah pourquoi? Vous croyez qu'on est à Paris, nous, en ce moment? Vous rigolez ou quoi? On est à l'île Maurice, là, il est bientôt 9h, on termine le petit-déj, on est sur la plage, on est au top. Paul Mirabel, il finit son château de sable. Ouais. Leïla, elle fait un peu la gueule, hein, parce que, 9h, le bar est fermé, désolé.
J'avoue.
Morgane fait la morte au bord de l'eau en espérant qu'un surfeur vienne lui faire du bouche à bouche, un massage cardiaque, et pourquoi pas un enfant. Hein, on est bien, en tout cas, mieux qu'à Paris, et excusez-moi.
Télétravail.
On nous a demandé exactement de bosser à distance. Ça, d'aérer l'espace de travail, on peut difficilement faire mieux. On nous pousse au télétravail, mais on nous dit pas d'où il fallait télétravailler. Mais c'est pareil pour Jean-Michel Blanquer. On lui demande la mise en place d'un protocole sanitaire, certes, mais on lui a pas demandé de le faire en doudoune sur les marches du ministère de l'Éducation nationale. Il l'a fait en tongs et en string depuis Ibiza, et c'est très bien comme ça. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, aujourd'hui, j'adresse...
À qui ?
Un appel solennel.
Non.
Oui, j'en appelle solennellement, calmez-vous, pas encore. J'adresse un appel solennel à Emmanuel Macron, bon, on va continuer. Ah. Hein. Monsieur le Président, vous avez dans votre gouvernement un homme formidable. Cet homme, c'est votre ministre de l'Éducation. Oui, Jean-Michel Blanquer est un ministre 3.0 qui a prouvé par son efficacité en distanciel que la présence physique est une notion archaïque. Qu'on peut très bien être efficace à Paris, tout en étant physiquement ailleurs. Pour cette raison... Je vous demande de bien vouloir, par ordonnance, ça va plus vite, promulguer au plus tôt une loi obligeant les employés du secteur public, il faut donner l'exemple, à travailler depuis les dom-tom. Ça désengorgera Paris et ça créera du lien social dans nos départements d'outre-mer qui se sentent si souvent oubliés par la métropole. Vive la France, vive Air Caraïbes.
Mais... Merci Daniel. Olivier Bassureau, bonjour. De quoi vas-tu parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais parler de l'épidémie de Covid qui a l'air peut-être, on ne sait pas, croisons les doigts, de refluer. Donc, tous à Ibiza cet été pour la frénésie et les gros bisous.
Karine Thuil est notre invitée jusqu'à 12h30 sur Inter avec La Décision. Voilà, et à 13h, ça sera le journal de...
13h !
Daniel Morin et notre invité Karine Thuil. La Décision, le nouveau roman de Karine Thuil, le 12e roman de Karine Thuil avec une fin incroyable. Il est en 3 parties, si j'ai bonne mémoire. On va évidemment pas révéler ce qui se passe à la fin, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, et comment travaillez-vous d'ailleurs, dans la construction de votre roman ? Saviez-vous dès le début du roman comment ça finirait ? Ou est-ce que vous vous êtes laissé promener, embarqué par vos personnages ?
Non, je tâtonne. Je compare souvent l'écriture d'un roman à un puzzle. On a des pièces éparses, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner.
Même pas la fin ?
Non. Et puis, alors, certains écrivains vous diront l'inverse, mais moi, je tâtonne beaucoup. Et même, j'essaye, j'expérimente des choses, j'écris pour voir. Parce que j'essaye toujours aussi de trouver cet équilibre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est de la complexité.
Ouais.
Et donc, ça se travaille aussi.
Alors, il y a de la complexité.
Travail, c'est important. Hein.
Ah oui, bien sûr.
C'est du travail, l'écriture.
Il y a de la complexité, mentale. Mais il n'y en a pas dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est d'une fluidité, d'une facilité. Alors, il y a quelques mots sur lesquels on peut s'arrêter. J'ai appris le taquilla, c'est ça ?
La taquilla, c'est la dissimulation. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va dissimuler ses intentions.
Qui ment, quoi.
Voilà, qui ment. Va se dissimuler.
Et puis j'ai découvert ave aussi.
Ah oui,
qui est un nouveau mot dans ma vie. H-A, accent circonflexe, V-E. Qui est quoi ? Qui est émacié, c'est ça ?
Un peu pâle.
Pâle, c'est
mais
ça ?
Mais pas le teint ave, moi non plus.
Mais... de naissance. Hein.
Ça, moi aussi, aucun mérite.
Et Guy, c'est parce qu'il a été trop cuit. Moi, pas assez.
C'est le problème de la chaleur tournante, c'est qu'à un moment donné, t'en as partout, et donc voilà. La décision, est-ce que on l'a bien compris, que ce soit tout à l'heure avec le président Marc Trévidic, que ce soit avec nous ici autour de la table, c'est vrai que la question de la décision, je sais même pas d'ailleurs étymologiquement ce que décision renferme comme sens ou comme mot latin, mais en tout cas ce mot là s'imposer pour vous déjà comme titre, mais comme angle et point de rencontre de la vie privée et de la vie professionnelle.
Oui, ça s'est imposé tout de suite puisque juger, c'est décider au quotidien, c'est prendre des décisions. Et puis cette question de la décision dans sa vie intime, c'est une question.
C'est coupé, oui. Pardon, on me dit que c'est décider, c'est ça. C'est coupé, c'est tranché.
Oui, c'est ça. C'est à un moment donné choisir en fait. Hein, et j'avais envie de décrire cette femme aussi dans son incapacité à choisir dans sa vie privée. Parce que on oublie dans notre société la notion de prise de risque. On est quand même dans une société ultra sécuritaire où on cherche à se protéger de tout dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle.
Ouais.
Or, il faut prendre des risques et il faut donc décider.
Et la nuance qu'il y a entre un jugement et une décision est aussi fragile, parce que ça se touche. La seule grosse différence, c'est que il y a une incidence qui n'a pas le même écho entre une décision dans sa vie privée et un jugement au niveau national.
Alors oui, puis là en plus, en l'occurrence, c'est une juge d'instruction. Elle n'est pas juge aux assises où là, elle va rendre un jugement. Elle va prendre une décision, même si cette décision, elle va amener à un jugement, puisque selon sa décision, ça sera un non-lieu ou tribunal correctionnel ou cour d'assises.
Avec la question aussi qui se pose sur le l'antiterrorisme, c'est la précaution prise. Est-ce qu'il faut enfermer quelqu'un que l'on soupçonne ou est-ce qu'il faut se baser sur des charges, sur des faits extrêmement précis pour prendre une décision de l'emprisonner? Et va-t-il finalement être encore plus embrigadé, enrôlé dans le terrorisme, dans l'extrémisme, en prison, avec ce qu'il va vivre? Ou est-ce qu'on peut faire confiance? Parce qu'il y a aussi ce côté humain qui est de dire, bah, j'y crois, j'ai comme une intime conviction. En fait.
Bah, vous avez parfois aussi des gens très jeunes, cette notion est importante. Quand vous avez quelqu'un qui a 30 ans, c'est pas la même chose que quand vous avez quelqu'un qui a 15 ans et qui a dit je vais commettre un attentat, mais qui l'a dit comme ça, par exemple. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on incrimine une intention parce qu'on a très peur. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations où des jeunes sont incarcérés, donc avec le risque, effectivement, qu'ils soient embrigadés, mais aussi avec le risque qu'ils soient brisés et qu'ils se suicident. Qui sort de la prison complètement détruit.
Dans ce cas-là, c'est l'intérêt général qui prévaut. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas d'avoir brisé quelqu'un, on dit simplement on a protégé la majorité.
Normalement, non.
La juge Alma, elle le dit à un moment. Ce qu'elle veut éviter, c'est la peine d'élimination sociale. Si vous éliminez quelqu'un socialement, si sa vie est finie, il a plus de risques de devenir un jour une bombe humaine que si on prend en compte, en considération, sa ligne de vie, ses capacités.
Je suis d'accord, ce sont des métiers où les décisions vont vers la plus grande majorité, pour le bien de la plus grande majorité, parce qu'on ne peut pas faire du cas par cas.
En fait, depuis 2015, comme il l'a très bien dit Marc Trévidic, il y a eu tellement d'attentats que maintenant, par précaution, ils préfèrent maintenir des gens en détention.
La décision, c'est passionnant parce que c'est aussi l'histoire d'une femme qui voit sa vie totalement bouleversée parce que érosion du couple, l'autre sujet de prédilection aussi de Karine Tuil, c'est même le premier roman était là-dessus.
Exactement, ouais. Vous avez tout lu, ça me fait plaisir.
Hier soir. L'amour, c'est jamais complètement la fête. Hein.
Leila, tu as
sous la plume de Karine.
Mais c'est vrai que ce qui est intéressant en littérature, c'est quand même, dans l'art de manière générale, c'est le conflit. Ouais. Quand tout va bien, c'est moins intéressant.
Chez Gallimard, la décision signée Karine Tuil. Voici Tanguy Pastureau chez Inter.
Jeudi dernier, j'ai fait une chronique sur le fait que j'allais faire ma troisième dose de Pfizer, ouais. Ce que j'ai fait. Hein, bon, comme j'ai contribué à la fortune de son PDG, Albert Bourla, je me sens autorisé à l'appeler Bébert. Hein, trois piqûres, ça crée des liens, comme avait dit Pete Doherty à Amy Winehouse en 2009.
N'est-ce pas ?
Ensuite, jeudi, mon community manager Arnaud Montebourg, je veux lui redonner sa chance à une personne au chômage, a mis en ligne la chronique sur mes réseaux. Et là, j'ai pu constater la différence entre les réseaux. Sur Twitter, quand vous postez une vidéo, les gens vous écrivent « je vais te tuer », puis « pardon, j'ai oublié de dire bonjour ». Bon, sur Instagram, quand vous postez une vidéo, les gens vous mettent des cœurs avec marqué « T'es notre loulou, on te kiffe pour la vie ». Instagram, c'est le réseau de l'amour. Même Francis Holm là-dessus se fait appeler chaton. Mais alors sur Facebook, aïe aïe aïe, direct ça part dans tous les sens. Facebook, c'est comme un repas de famille avec des gens que tu ne connais ni d'Ève, ni d'Adam, ni de Jean-Pierre. Oui, j'essaie de moderniser un peu la genèse en mettant un trouble au lieu d'un couple. Et le serpent, je propose de le remplacer par une paire de boots vegan. Je sais pas ce qui s'est passé. Sans doute un site anti-vax a relayé ma chronique, mais j'ai subi un raid de gens énervés qui ont inondé la page de leur message. Je me suis fait traiter alors de mouton. Bon, là ça va, mais en période d'Aïd, ça peut mal finir si quelqu'un prend ça au premier degré. On a écrit que j'étais soumis. Alors je ne sais pas qui a cafeté. Daniel Morin avait juré qu'il ne parlerait pas. Il m'avait dit ce qui se passe à l'arrière du balto reste à l'arrière du balto à l'issue de cette date de tournée France Inter à la Bourboule. J'ai eu aussi droit à la phrase vous les artistes avez collaboré. Alors mouton plus collaboration, je me suis dit je vais vraiment finir par être tondu. J'ai pris les devants, je suis allé chez le coiffeur et j'ai aussi ce commentaire intrigant, quel est votre degré de soumission pour pouvoir continuer à exister? Est-ce que Macron en a une si grosse que ça? Fin de citation.
Non.
Et là, malheureusement, j'ai eu l'image. J'ai vu Macron en boxeur Calvin Klein XXL être gêné comme s'il portait un slip petit bateau taille 4 ans et moi allongé par terre à l'attendre avec une perruque blonde et une petite jupe pour faire comme si j'étais Brigitte. Et je me suis dit, soit les gens ont un gros problème mental, soit c'est moi. Mais je suis trop faible psychologiquement pour me mettre en cause, donc c'est eux. Alors tout ça pour vous dire de ne jamais lire les commentaires commentaires sur Facebook, voire de ne jamais lire tout court, à part le programme d'Anne Hidalgo, si jamais vous cherchez une lecture très rapide et pas prise de tête. Bref, j'ai fait ma troisième dose jeudi, comme tous les moutons soumis à la dictature sanitaire d'un Macron au pénis énorme et qui seront tendus à la libération, et ça m'a claqué, mais j'ai dormi tout le week-end avant de réaliser qu'en fait, je faisais ça tous les week-ends. Donc je pense qu'il faut plus lutter contre le principe du week-end, en fait, que contre le vaccin. Et hier à 13h, je regardais le JT de Julien Bugier sur France 2. Je me suis d'ailleurs demandé, est-ce que Julien Bugier en a une si grosse que ça, pour vous dire à quel point ce commentaire sur Facebook a brisé quelque chose en moi. Voilà. Donc il a ouvert son JT sur l'affaire Jubilard. Puis Julien Bugier, le Leïla Kadour Boudadi de la semaine, a accueilli Damien Mascret, l'intervenant santé de France 2. Là-bas, c'est le médecin référent. Si Faustine Bollard entame une dépression lors d'une émission sur la charge mentale où une mère épuisée cherche à lui vendre son fils de 5 mois, bon, c'est Damien Mascret qui vient. Et là, hier, Damien Mascret a cette tête des bonjours. Hein, vous voyez le smiley sourire? Bon, bah, il ressemblait à ça, mais en rose. Alors, autre indice, Julien Bugier lui dit, Damien, vous venez nous voir pour de bonnes nouvelles, on aime ça. Sous-entendu qu'on venait pour de mauvaises, on a envie de vous rouler dessus en Nissan Qashqai, en vous traitant de dernier fan de Kinvé. Et là, Mascret commence à dire, soyons prudents, mais il se pourrait que le Covid, on en sorte bientôt. Fou de joie, j'ai éteint la télé, sans même avoir eu le temps de me poser la question, est-ce que Damien Mascret en a une si grosse que ça? J'ai tapé sur Google, fin du Covid, et là, je suis tombé sur l'interview d'Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Alors, c'est pas moi qui dis ce que je vais dire, hein, parce que Pasteur crédible, Pasteur pas crédible. Et là, Fontenay sur France Inter dit, le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé. En fait, il explique qu'Omicron a bouffé Delta, et qu'Omicron n'est dangereux que si on a 85 ans et 23 comorbidités. Même Édouard Balladur, avec le ventre ouvert, un jour où un copain voulant sa boîte de champagne, l'a sabré lui, pourrait dire à Omicron, eh bien, qu'est-ce que t'as? Alors, Fontenay met ça sur l'attitude exemplaire des Français. Hein, forcément, il va pas dire, désolé les gros, le conseil scientifique auquel j'appartiens s'est planté, parce que ces gens, s'ils se lancent dans le PMU, sont capables de prédire la victoire de la seule jument à trois pattes. Résultat, tous les pays d'Europe préparent la sortie de crise. En Angleterre, Boris Johnson a prévu de refaire la fête, chose qu'il a arrêté de faire un quart d'heure à un moment parce que ça râlait dans le pays. L'Espagne a dit, Omicron, on peut gérer, on traite ça comme une grippe. Et nous, on est là comme des couillons à lancer le pass vaccinal et à réintroduire le port du masque à l'extérieur. Enfin, toujours en retard, la France. Ça fait pareil avec le R&B. Ça faisait 10 ans qu'aux States, il grouvait. Et nous, il a fallu qu'on attende 95 pour avoir refait l'ail. Voilà. Donc, gros espoir de fin de pandémie. Espoir. Hein. Mais attention, en cas d'épidémie de gastro, Véran peut toujours conclure un deal avec Lafarge et nous plâtrer la sortie du colon. Hein, à l'entrée des salles de spectacle, il faudra présenter son QR code point P. Hein, tout ceci ne répondant pas à la question, est-ce que Véran en a une?
Mais non, okay,
pardon, j'arrête.
Merci, Tanguy Passion.
Et Tanguy sera en spectacle le 25 février à Sanary-sur-Mer.
Oui, allez-y, parce qu'on en a une énorme.
Mais arrête, moi je vais y penser tout le temps.
Une verve.
Verve.
Une belle verve.
C'est ça. La décision, Karine Thuil, c'est l'un des événements culturels, évidemment, de cette rentrée littéraire chez Gallimard. D'autres événements, Leïla.
Un voleur vient d'être arrêté à New York.
Ah,
que volait-il
enfin ?
C'est un lien avec la culture.
De la nourriture,
sûr.
Un livre.
Des œuvres de street art ?
Non, pas des œuvres de street art.
Alors, c'est pas un livre, c'était un tableau.
C'est lié au métier de notre invité.
Un tableau. Donc, un livre.
Il volait des livres.
Oui, des livres. Alors, des livres.
Il plagiait.
Pas des livres. Les livres, non. C'est ce qu'on peut acheter dans.
Oui, il volait des idées.
Dans des librairies.
Ah oui, des manuscrits.
Non, des lettres.
Absolument.
D'accord.
C'est Karine qui trouve un voleur de manuscrits, Filippo Bernardini, un Italien de 29 ans, employé chez un éditeur londonien, aurait dérobé depuis 2016 les originaux de plusieurs centaines de livres. Alors comment il faisait ? Comme il était dans le milieu, il se faisait passer pour quelqu'un d'autre, une star américaine, un différent éditeur, un autre éditeur, et il a récupéré des productions de Margaret Atwood, d'Anthony Doerr, de Sally Rooney, d'Ethan Hawke, pardon, et aussi un lauréat du prix Pulitzer. Tout simplement comme ça, il se fait sa petite collection.
Enfin, pardon, est-ce qu'aujourd'hui les romans sont écrits sur ordinateur et c'est simplement... Une impression, enfin c'est une page pas écrite à la main, donc ce sont pas des manuscrits.
Non, mais il peut y avoir,
il peut y avoir des notes,
peut être travaillé, donc ouais. C'est finalement dans 50 ans ça
valeur,
peut avoir de la valeur.
D'accord,
donc
okay.
Il se constituait une petite collection comme ça, tranquillement. Comment vous protégez vos textes, Karine ? Est-ce que vous êtes une psychopathe de l'enregistrement, du transfert de double disque dur ?
Quel est votre mot de passe surtout ?
J'allais vous donner en émission. Comme tous les auteurs, j'ai déjà perdu des textes et c'est tellement traumatisant qu'après vous devenez une sorte d'obsédé de l'enregistrement.
Et comment vous faites alors ?
J'ai Dropbox, ça a changé ma vie. Je sais pas si on peut citer.
Mais... Ouais, mais pas que Dropbox, j'imagine, parce que s'il y a un problème avec.
Non, mais j'imprime aussi. Ah ouais. J'imprime.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous imprimez, ensuite vous corrigez à la main, et donc ça donne à ce premier manuscrit, cette première édition, une valeur particulière ? Pour votre éditeur, pour vous.
Moi,
j'ai surtout
beaucoup de carnets aussi. Je prends plein de notes. Finalement,
à main levée.
Oui, j'ai beaucoup de carnets, beaucoup de choses qui sont écrites.
C'est Houellebecq qui s'est fait voler son manuscrit. Enfin, le PDF est parti sur Internet alors que il n'était pas encore publié. Donc, c'est la limite aussi du numérique dans le monde de l'édition.
Ça, c'est un vrai problème parce que ça a tué quand même l'industrie du disque et ça aussi aujourd'hui en littérature, avant même la sortie, le livre
se retrouve en ligne. Ça a modifié l'industrie du disque.
Certains auteurs, certains artistes.
Non, mais les chansons continuent. Il y a des plateformes maintenant. Et puis, et même le vinyle reprend des couleurs aux États-Unis.
Ça, c'est des gens qui payent des abonnements. Ça, je trouve ça bien parce que c'est mis en œuvre pour protéger les artistes. Mais là, je parle de sites de piratage où les gens effectivement téléchargent
ce qu'ils veulent.
Alors, quand vous avez travaillé 2-3 ans, enfin que vous en vivez.
Vous préférez que votre livre soit lu en tournant des pages ou en swipant sur une tablette ?
Moi, j'aime le livre imprimé.
L'objet.
Mais après, je comprends qu'on préfère la tablette.
Autre question, un nouveau Rodin va être mis en vente aux États-Unis. Mais d'où provient-il ?
Ça fait longtemps qu'il n'a plus rien fait,
D'où provient-il ? C'est assez étonnant.
D'un musée.
D'une collection.
Non, ni d'une collection, ni d'un musée.
Alors, d'un grenier de quelqu'un qui ne savait même pas qu'il avait un Rodin ?
Non, c'est une forme de grenier, si tu veux.
Une cave.
Non plus.
C'est une brocante.
La cuisine, la salle de bain, je cherche une pièce.
Non. On cherche un lieu.
C'est une sculpture d'abord ou...
C'est une sculpture, en effet.
C'est un bronze qui l'a coulé.
La mère à l'enfant. Voilà, merci beaucoup pour cette petite blague.
Rodin.
C'est pas dans une pièce d'une maison.
Un jardin.
C'est une maison enterrée.
Donc,
au cimetière.
Absolument. Il vient d'une sépulture, ce moule de mère à l'enfant.
Moule de mère.
C'est le New York Times qui a révélé que les descendants.
Non, c'est toi qui viens de le dire, c'est pas le New York Times.
Enterrée là, ses descendants ont décidé de vendre aux enchères ce moule. C'est une commande, en fait, que Rodin n'avait pas terminée, puisqu'il est mort juste après. Juste avant, le motif invoqué, c'est qu'en fait, ça commencé à se voir dans le cimetière. Ce cimetière était de plus en plus fréquenté et ils se sont dit, on va finir par nous le voler. Donc on va le vendre, tout simplement, à ce moment-là.
D'accord.
C'est l'héritage culturel légué par leur
grand-mère. J'imagine qu'il faut demander l'autorisation à la famille ou...
C'est eux, c'est les descendants qui ont décidé maintenant, on va le vendre.
Okay,
quel héritage culturel vous aimeriez laisser, Karine Thuil ?
C'est dur, ça.
Ouais.
Mes livres, enfin, je pense que
oui, ça c'est clair,
oui. Oui, mais j'en ai pas d'autres.
Vous avez pensé à une épitaphe particulière ? Puisqu'on est au cimetière, là.
Ah, c'est gay.
Allez. C'est trop gay, cette émission. Non, pas encore, arrêtez. C'est
impossible. Non, mais l'héritage, à part la trace écrite, romans...
J'ai tourné la page.
Ouais, à part les romans.
Oui, pour moi, c'est vraiment la littérature qui est importante dans ma vie. Enfin, je suis très attachée à la transmission, mais ce qu'on peut... Pas forcément, d'ailleurs, les livres imprimés, mais ce que mes enfants ont lu... D'autres auteurs, finalement la transmission intellectuelle.
Ouais.
Est-ce qu'un roman pour vous doit avoir comme valeur aussi de, peut-être pas de donner des conseils en tout cas, mais de faire réfléchir, d'avoir un écho, qu'on ne sorte pas indemne d'une lecture et qu'on se pose aussi des questions ?
Oui, moi j'aime bien l'idée qu'un roman amène du débat, en fait, des discussions, même si on n'est pas d'accord. En fait, moi, ça me gêne pas quand quelqu'un dit ton roman m'a mise mal à l'aise, ou parce que tant que ça crée de la discussion, je pense que c'est ce que je recherche en littérature. Pas simplement un divertissement.
Alors tout à l'heure, Leïla, je ne sais même plus d'ailleurs si c'était à l'antenne ou hors antenne, vous demandez vos projets, de savoir si vous étiez déjà... Non, c'était hors antenne.
C'était hors antenne.
Si vous étiez déjà en train de travailler sur un prochain ouvrage ou une pièce de théâtre, est-ce que vous allez renouer aussi avec l'humour ?
Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. En ce moment, il y a une adaptation de L'invention de nos vies qui se prépare au théâtre.
Il y a eu Choses humaines au cinéma.
Voilà, Les choses humaines au cinéma. Moi, je vais travailler sur l'adaptation.
Je vais juste préciser, pardon, que c'est Leslie Menahem et Johanna Beauvais qui ont adapté au théâtre votre roman L'invention de nos vies.
C'est très bien.
Et ça se jouera à Aubagne le 26 janvier prochain, le 30 janvier au Grand Quevilly et le 15 février à Neuilly-sur-Seine, entre autres.
Je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Et oui, je vais me mettre à travailler sur le prochain roman, mais ça prend du temps. Donc,
et j'imagine que le film d'Yvan Attal, Les choses humaines aussi, vous l'avez...
Ah, moi, je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le travail d'Yvan. Adoré. Ça a été un beau film, une très belle aventure humaine avec tous les acteurs. Vraiment, il a fait un très beau travail.
Vous ne avez pas dit si votre prochain travail sera dans l'humour ou pas. Vous en avez envie? Ça peut être une piste?
Eh ben, mes premiers livres étaient sur le mode burlesque, et après mon roman Quand j'étais drôle, j'ai complètement renoncé à cette veine, alors que j'adore les humoristes.
Ça, c'était l'histoire de l'humoriste qui part aux États-Unis.
C'est ça, qui part aux États-Unis, il perd son sens de l'humour, et moi, ça s'est arrêté là aussi, nettement.
Et la décision des projets d'adaptation ou pas?
C'est en cours, oui.
Ouais, forcément.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour tous les couples qui, après nous avoir écoutés ce matin, ont décidé de se séparer dans l'espoir de finir un jour dans un livre de Karine Tuile, qui, je le rappelle, n'aime pas les couples heureux. Je comprends. D'ailleurs, moi, pour devenir le héros du prochain Karine Tuile, je vais me lancer dans le terrorisme matrimonial. Et d'ailleurs, ma compagne me dit que j'ai déjà commencé il y a longtemps. Désolé pour nos auditeurs un peu angoissés qui ont souffert ce matin en écoutant nos discussions sur le terrorisme, l'embrigadement, la mort, les décisions qui changent une vie. C'est vrai, moi-même j'ai eu un peu les pétoches. Alors je vais pas vous effeuler, mais demain ce sera largement pire. On parlera de Belgique avec Angèle et Guillermo Guise. Désolé enfin pour notre invitée Karine Tuile qui a entendu de la voix de Nagui ce matin qu'elle faisait toujours les mêmes livres,
non,
avec toujours les mêmes thèmes.
C'est un compliment dans
ça,
sa bouche.
On sait recevoir, hein, on n'est pas chez Trapenard ici, on lit les livres. On les comprend pas, mais on les lit. Eh ouais.
La bonne conclusion.
Voilà, je pense que c'est ça. Encore une fois, la meilleure décision à prendre est celle de lire le livre de Karine Tuile.
Ou de le voler.
Après tout.
Piquez-le.
Écoute, c'est un objet.
On vole rien du tout.
Non. Regarde là la fliquette.
Oui.
Non, mais moi j'avoue que t'arrêtes quelqu'un qui a volé un livre, est-ce que tu lui en veux parce qu'il voulait lire le livre ou parce que tu lui en veux parce qu'il a volé ou parce que ça ne se fait pas de voler?
Non, parce que ça ne se fait pas de voler, Nagui.
Madame la juge.
Je ne vais pas vous dire ça à l'antenne parce que c'est
sûr. Donc la réponse est oui. La décision, Karine Tuile, ce nouveau roman chez Gallimard, passionnant encore une fois parce que vous pouvez très bien voir le prisme humain de cette femme qui est au milieu de sa vie et qui se demande ce qu'elle va faire de sa vie, de la manière dont elle éduque ses enfants, du rapport à ses enfants, du rapport à son mari qui prend de plus en plus de distance et qui est attiré par la religion la plus dense, ou une religion en tout cas, mais une forme de religion dense. Et de l'autre côté, tout ce travail autour du terrorisme, avec ces interrogatoires qui sont assez intéressants parce qu'on se projette, on se met à sa place, et nous aussi, si on avait cette décision à prendre, qu'est-ce que l'on ferait et comment on réagirait? Et on a tout dit, sauf évidemment la manière dont ce roman finit, une manière totalement dingue, un suspense insoutenable. C'est tellement bien écrit qu'on est plongé dans cette situation, dans ce rythme, dans le chaos le plus...
La fin, la juge qui se tape le terroriste, on ne le voyait pas venir.
En tout cas, on ne voit pas venir la fin et c'est formidable. Merci Karine Tuile d'être venue pour cette première, j'espère pas cette dernière.
Très bon moment.
Dans la bonne originale. Angèle, donc demain, comme l'a dit Daniel Morin, sera notre invité. Passez une bonne journée. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.